Amen.
Tout ce qui va sortir.
Oh. Amen. Amen.
Amen.
Oh. Amen.
Amen. Ok. Donc ce matin, il y aura deux messages. Et le premier message porte sur les versets que nous avons lus. Dieu a un modèle. Dieu fait tout selon un modèle. Même la création est selon un modèle. Rien ne se passe par hasard. Dieu a un dessein. Il a un objectif qu'il veut atteindre. Mais c'est selon un certain modèle. Et donc, en tant que croyant chrétien, nous devons suivre ce modèle. Si nous ne suivons pas ce modèle, nous pouvons essayer d'atteindre ce que Dieu veut.
Il faut demander si tout le monde comprend le français et le B.
Ah, ok. Est-ce que tout le monde comprend le français et le B?
Oui.
Ah, je suis français et le B. Alors, je suis français et le B. Je suis français et le B. Je suis français et le B. Je suis français.
Oui, on continue. Donc ça va. Ok. Donc Dieu a mis quelque chose dans l'homme. La Bible dit que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en l'homme qui veut Dieu, qui correspond à Dieu. C'est une conscience de Dieu. Et dans chaque personne, il y a ça. Même ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Des athées. Peut-être qu'en Afrique, il y en a très peu. Mais ailleurs dans le monde, il y a beaucoup d'athées endurcis qui disent que Dieu n'existe pas. Ils ont toutes sortes de philosophies pour expliquer l'absence de Dieu. Et même ils se disent que eux-mêmes ils sont Dieu. Le propre Dieu. Ils sont en contrôle. Et ils ne voient pas le Créateur. Mais même dans ces gens-là, il y a quelque chose qui correspond à Dieu. Et une fois que cette partie est touchée, il y a une réponse à Dieu. Donc, dans chaque créature, dans chaque personne, chaque homme, il y a l'éternité. Nous voulons Dieu. Nous voulons avoir un rapport avec notre Créateur. À un certain moment de notre vie, nous allons crier à Dieu. Même la personne juste avant de mourir, il a vécu toute sa vie sans Dieu. En train de s'amuser. En train de coucher ici et là. De mener une bonne vie. Une vie de péché. Une vie sans Dieu. Il a peur. Même s'il dit qu'il n'a pas peur. Parce qu'en lui, il y a une conscience de Dieu. Qui a été supprimée pendant des années. Mais il se rend compte qu'il va mourir. Et qu'il va faire face à quelqu'un. Il devra rendre compte de sa vie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. La création de Dieu. Donc, aujourd'hui, ce matin, s'il y a certains qui ne connaissent pas Dieu, aujourd'hui, c'est le temps. D'ouvrir votre cœur pour reconnaître Dieu, pour toucher Dieu, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ est Dieu lui-même qui s'est incarné, il est venu dans la chair en tant qu'un homme par son amour pour mourir pour nous, pour mourir pour nos péchés. Alors quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé.
Amen.
Comment sera un rapport avec Dieu?
Un rapport.
Ceci est le désir de Dieu. Que tout homme soit sauvé. Que tout homme connaisse le Dieu vivant. Le Dieu unique. Seulement un Dieu dans cet univers. Et c'est le Dieu que nous prêchons. Ce Dieu, Jésus-Christ, n'est-ce pas, Fils de Dieu, Dieu lui-même, venu dans ce monde, mourir pour nous, crucifié pour nous, pour nos péchés, sur la croix, pour nous pardonner, ressuscité le troisième jour. N'est-ce pas? Il est devenu l'esprit vivifiant.
Amen.
Et quiconque invoque son nom, il va entrer dans votre esprit, demeurez avec vous.
Amen.
En tant que la vie éternelle, en tant que l'esprit. Alors, ça c'est le salut. Ça c'est l'évangile. Donc, ce matin, c'est le temps d'ouvrir notre cœur. De croire. N'est-ce pas? D'accepter. Écouter la parole. Et par la foi. Accepter. Croire en Jésus-Christ. Recevoir Jésus-Christ. Comme votre sauveur.
Amen.
Donc, ça c'est un peu, n'est-ce pas? Une prédication de l'évangile. Vous n'êtes pas venu ici en vain. Vous êtes venu pour connaître Dieu. Le Dieu vivant. Amen.
Amen.
Mais ce Dieu a un dessein. Il a un objectif. Il veut nous sauver. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il veut nous sauver? Il veut un témoignage. Il veut une expression. Il veut quelque chose qui puisse l'exprimer. Dans tout l'univers. Tout l'univers. Exprime Dieu. N'est-ce pas? Le soleil, la lune, les étoiles.
Le triple, le trivio.
Les arbres. Le ciel. Toute création. Déclare la gloire de Dieu.
Amen.
Amen. Mais la création n'est pas Dieu. Dieu est le créateur.
Amen.
La création n'est pas Dieu. Dieu s'exprime par la création. Mais Dieu veut encore quelque chose. Dieu veut encore. Il veut un homme. Un homme, un vase qui peut l'exprimer. Qui peut le témoigner. Et Dieu est devenu un homme. Jésus-Christ. Un homme. Mais Dieu veut un homme corporatif. Il veut un homme élargi. Donc, quand il a créé
Adam,
c'était un homme. Mais un homme corporatif. N'est-ce pas? Adam, c'est quoi? C'est la race humaine. Et nous faisons tous partie d'Adam. De la race humaine. Mais malheureusement, l'homme a chuté. N'est-ce pas? Donc, l'homme que Dieu a créé tout au début, il a chuté. Il a partagé, il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a perdu la présence de Dieu. Et il s'est séparé de Dieu lui-même. Et donc, il y a eu un problème. Dieu n'a pas pu obtenir son expression. Le premier homme,
Adam,
a échoué. Mais donc Dieu a cherché un deuxième homme. Et ce deuxième homme est Jésus-Christ. Dieu lui-même. Donc Dieu est venu en tant qu'un homme pour satisfaire Dieu lui-même. Pour vivre la vie que l'homme n'a pas pu vivre. Pour vivre une vie parfaite. Une vie un avec Dieu. Une vie qui était totalement dépendante de Dieu. Une vie qui était parfaitement alliée à la volonté de Dieu. Ça, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième homme. Mais aujourd'hui, Dieu veut un homme. Jésus-Christ. Mais en nous.
Les miens,
en beaucoup d'hommes, beaucoup de frères et de sœurs, pas seulement ici, mais partout dans le monde, partout dans la région, Dieu cherche des vases. Il cherche des hommes et des femmes dans les où il peut demeurer. pour être leur vie, pour être leur, leur existence, pour ceux qui peuvent exprimer Dieu. Alors vous voyez, n'est-ce pas, vous voyez une personne qui appartient au Seigneur Jésus. Vous voyez Dieu. C'est ça, le, c'est facile, c'est simple. N'est-ce pas, c'est, voilà ce que Dieu veut. Il veut être vu. Mais il est invisible. On
ne
peut pas le voir. D'une part. D'autre part, on peut le voir. Comment est-ce qu'on peut le voir? Par des hommes et des femmes. Des vases. Qui témoignent de Dieu. Vous voyez un frère? Vous voyez l'expression de Dieu. Vous voulez voir qui est Dieu? Vous voyez ceux qui croient en Dieu. Ça, c'est l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est Dieu, Jésus-Christ, Dieu incarné. L'Église sur la terre. Pour faire voir Dieu au monde. Donc, voilà l'objectif de Dieu. En quelques mots. Mais Dieu est très précis. Il a un modèle. Parce qu'il nous connaît. Nous avons une nature. Et cette nature est une frustration. C'est cette nature qui a frustré le premier homme, Adam. Adam était créé à l'image de Dieu. Parfait. Mais il avait sa propre idée. N'est-ce pas? Ah! Et Satan, l'ennemi de Dieu, il connaissait l'homme très très bien. Et il savait qu'il pouvait mettre quelque chose dans l'homme. Une pensée. Dieu a-t-il dit que lorsque tu mangeras de cet arbre, tu mourras? Non, tu ne mourras pas. Tu deviendras comme Dieu. Oui, ça c'est. Mais c'est l'objectif de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons comme lui. N'est-ce pas? Que nous vivions comme lui. Ça, c'est l'Église. Et donc, Satan a imité ça. Il a pris ce que Dieu voulait pour ajouter, pour contourner le dessein de Dieu. Le modèle de Dieu. Pour être le modèle de l'homme. Mange ça. Et tu seras comme Dieu. Ça, c'est notre nature. Notre vieil homme. Notre nature chutée. Qui veut Dieu. Mais selon notre propre voix. Notre propre modèle. Mais Dieu a son modèle. Alors, donc, toute l'œuvre de Dieu est selon son modèle. Et Dieu est en train de nous sauver de notre modèle, de nos propres voies, de notre adoration de Dieu, à notre manière. pour conformer, pour nous rendre conformes à la manière de Dieu, au modèle de Dieu. Donc les versets que nous avons lus ce matin sont basés sur nous montrent comment l'homme, et ça c'est nous, nous éloignons du modèle de Dieu. Quel est le modèle de Dieu? Dieu veut être exprimé. Et son expression est une expression de l'unité. Dieu est un. Tout ce que Dieu fait exprime ce qu'il est. Donc, si Dieu est un, ce qu'il fait, ce qu'il produit est un. Amen. L'Église est un. Le témoignage du Seigneur est un. Selon le dessein de Dieu. Donc, depuis le début, quand, n'est-ce pas, par Moïse, quand Moïse a construit le tabernacle dans l'Ancien Testament, Dieu lui a dit, fais attention à construire selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'était le premier verset, Exode chapitre 25, verset 40. Ça veut dire que Moïse avait un schéma, un modèle. Et il fallait le suivre méticuleusement. Sans s'éloigner d'aucun détail. Et Dieu veut ça aussi aujourd'hui. Ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est notre modèle, n'est-ce pas? Ce qui est écrit dans la parole est notre modèle. Et nous devons le suivre. Et donc, quand les enfants d'Israël sont entrés dans la bonne terre, et ils ont commencé à, ils ont construit le temple, la maison de Dieu, et ils ont chassé, n'est-ce pas? Ils ont chassé les ennemis. Ils ont chassé les habitants de la terre. Ils ont commencé à occuper la terre. À manifester Dieu, à être un peuple unique, un peuple saint, un peuple uniquement pour Dieu. Dieu a donné à son peuple un modèle. Vous allez adorer. Vous allez m'adorer. Mais pas comme vous voulez. Pas selon votre gré. Vous allez m'adorer. Selon mon modèle. Vous allez venir à Jérusalem. Qui était la capitale. C'est là où Dieu a mis son nom. C'est là où tous les enfants d'Israël devaient s'unir pour amener leurs offrandes, pour adorer l'Éternel. Ça, c'est le modèle de Dieu. Pour démontrer que Dieu est unique. Dieu est un. Et que son peuple est unique. Son peuple est un. Le peuple, n'est-ce pas, les enfants d'Israël devaient laisser tomber toutes leurs opinions, toutes leurs idées de comment adorer Dieu pour venir suivre le modèle de Dieu. Vous allez m'adorer ici, dans le lieu que j'ai choisi, et pas ailleurs.
Ce
n'est pas à vous de décider. Ah, ça c'est... Voilà. Ça nous touche. Parce que, d'une part, nous voulons Dieu. D'autre part, nous voulons Dieu selon à notre gré. Je vais adorer Dieu. Je vais adorer Dieu. Mais comme je veux adorer Dieu. N'est-ce pas? Pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de... Au moins, je veux Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est assez bien. C'est... Voyez, qu'est-ce qu'il y a de mal? Je veux Dieu.
Mais le maudit.
Et, ah, selon ma manière. Et donc, les enfants d'Israël. Petit à petit. Ils ont adoré Dieu. Les versets dans 1 roi, chapitre
12.
Jéroboam, n'est-ce pas, a fait construire deux lieux d'adoration. Parce que un lieu dans le nord,
Dan,
et un lieu dans le sud, Bethel. Et comme ça, n'est-ce pas, ceux qui habitaient en Israël, dans le royaume du nord, ils pouvaient facilement se déplacer. Et ils n'avaient pas besoin d'aller à Jérusalem pour adorer. Et comme ça,
Jéroboam,
il pouvait garder le peuple.
Il
pouvait garder son royaume. Autrement, si tout le monde descendait à Jérusalem, dans le royaume de Juda, Jéroboam perdrait ses gens. N'est-ce pas? Il n'aurait plus de gens, plus de sujets. Et il resterait seul. Vous voyez? Donc, il a habilement, il a créé des lieux d'adoration. Il a dit, voilà, vous pouvez adorer ici. Adorer le Dieu. L'Éternel. De veau d'or.
Vous
voyez? Et ça est devenu une coutume. Il a même employé des sacrificateurs qui n'étaient pas qualifiés. Pas des lévites. Ça veut dire, même ceux qui n'étaient pas sauvés, on peut dire. Ah, venez ah, pour faire partie de l'église. Pour adorer Dieu. Mais aucune connaissance de Dieu.
Vous
voyez, ça c'est la manière du monde. Et nous devons faire attention. Nous sommes ici, n'est-ce pas, en tant que le témoignage du Seigneur. L'église à Neblekopé, l'église à Agou, l'église, n'est-ce pas,
à Djamakondji,
oui, à Elépélé,
Ah, le pelé.
Eh, ben oui, oui. T'allez aller, oui. Et ailleurs, n'est-ce pas?
Pelé du boum.
Dieu veut un témoignage. Il veut une église.
Elle est ramadie.
Dans chaque localité. Ça veut dire que Dieu veut être exprimé. Il veut être vu. Mais selon son modèle, pour que le monde puisse voir que nous sommes un. Ça, c'est la prière du Seigneur. Avant de mourir. Qu'ils puissent tous être un. Comme toi, Père, et moi, n'est-ce pas? Nous sommes un. Alors, où est l'unité aujourd'hui? Et donc, c'est pas pour critiquer. C'est pas pour juger. Mais c'est pour revenir au modèle que Dieu nous a donné. N'est-ce pas? Dans une localité, il y a un témoignage. Tous les croyants de cette localité constituent l'église. Et, mais Dieu veut une expression. Où sont ceux qui sont prêts à suivre, à adorer selon le modèle de Dieu? À se rassembler seulement en tant que frères et sœurs. Sans aucune, quoi, aucun nom. Que celui du Seigneur. Qui sommes-nous? Nous sommes l'Église. À telle ou telle ville. Ça, et sur le terrain de l'unité. Et nous exprimons, nous manifestons Dieu. Le Dieu unique. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. N'est-ce pas? Mais nous proclamons notre unité. Nous recevons tous les croyants. Tous ceux qui se prononcent frères et sœurs, tous ceux qui ont reçu le Seigneur font partie de l'Église. Voilà notre vision. On
ne
peut jamais trop en parler. Parce que, n'est-ce pas? Parce que vous serez, on va nous opposer. On va nous dire. Ah, donc vous pensez que vous êtes meilleur. Ou vous pensez que nous, on n'est pas l'Église. Vous n'avez pas de nom. Pas d'inscription. Alors vous n'êtes pas l'Église. Mais dans la Bible, encore une fois, dans la Bible. Est-ce que l'Église a une inscription? Non. L'église est l'église. L'église, c'est une description. De ce que nous sommes. Quand les enfants d'Israël venaient à Jérusalem pour adorer, ils n'avaient pas besoin de se identifier. En tant qu'enfants de Judas, d'Israël. Ou enfant, quoi? Enfant tel ou tel. Enfant saint. Enfant, n'est-ce pas, glorieux. Non, ils étaient enfants.
D'Israël.
Ils étaient le peuple de Dieu. Ils se rassemblaient pour louer le Seigneur dans un terrain, sur un terrain dans un lieu, à Jérusalem, c'était évident que ça, c'était le témoignage de Dieu. Il n'avait pas besoin de se déclarer quelque chose. Et c'est pareil aujourd'hui. Le modèle que nous avons reçu dans la Bible est très clair. Nous n'avons pas besoin de nous identifier. Nous sommes telle ou telle église. Nous sommes l'église telle ou telle. L'église de d'une certaine nature. L'église d'une certaine pratique. Non, l'église appartient à Dieu. L'église est à Jésus-Christ. C'est son église. Ce n'est pas notre église. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. Ce n'est pas l'église d'un certain dirigeant. Ce n'est pas l'église d'un homme de Dieu. Ce n'est pas l'église d'un prophète. Non, non, non. Ça, ce n'est pas le modèle. Donc, soyons clairs. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ.
Amen. Amen.
Uniquement. À qui est-ce que nous appartenons? Nous appartenons à Jésus-Christ. À personne d'autre. À aucun guérisseur. À aucun prophète. À aucun prêtre. À aucun dirigeant. À aucun homme de Dieu. Non, nous appartenons uniquement à Jésus-Christ. Qui est notre Seigneur? Jésus-Christ. Et il habite en nous. Alors, nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs. Oh, telle ou telle personne, il a quelque chose de miraculeux. Il a quelque chose, n'est-ce pas, qui peut m'aider. Alors je vais aller auprès de lui pour chercher du secours. Frères et sœurs, vous avez le meilleur guérisseur en vous. Vous pouvez le toucher. Vous pouvez venir à lui. Il va vous guérir. Il guérira votre âme. Il guérira votre nature, votre être. Vous voulez une guérison? Bon, nous avons besoin d'être guéris de nos pensées, de notre vie d'âme, de tout ce qui veut adorer Dieu, veut suivre Dieu selon notre volonté. Nous avons besoin d'être guéris de beaucoup de choses. Notre rapport avec nos femmes, nos maris, un mari qui bat sa femme, qui maltraite sa femme, il va chez un guérisseur pour être guéri. Non, il a besoin d'être guéri de sa mauvaise nature qui bat sa femme. Nul guérisseur, nul féticheur ne peut faire ça. Seulement Jésus-Christ peut nous sauver de battre notre femme. Seul Jésus-Christ peut nous sauver de l'alcoolisme. N'est-ce pas? Mais là, ce sont de ces choses-là que nous avons besoin d'être guéris. Donc, nous venons à Jésus-Christ.
Et
ça, c'est le modèle de Dieu. De venir se réunir. Adorer Dieu. Dans le lieu que Dieu a choisi. Quel est ce lieu? C'est le lieu de l'unité. Le terrain de l'unité. Ça veut dire que nous sommes un. Qui sommes-nous? Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. C'est ça. Nous sommes frères. Mais quel chrétien? On va vous... On nous demande. Mais quelle sorte de chrétien? Ok. Il faut ouvrir la Bible. Trouvez-moi, n'est-ce pas, un verset dans la Bible qui qualifie les chrétiens. Un chrétien tel ou tel. Non, un chrétien, c'est un chrétien. À Antioche. Il y avait une église. Et on commençait à appeler les gens là-bas. Chrétiens. Parce qu'on voyait leur vie. Leur manière de vivre. Ils adoraient
Christ.
Donc on les appelait chrétiens. Christ. Christman, homme de Christ.
Amen.
Vous voyez, Christ. Christ est notre qualification.
Christ est un quoi de voyons ami.
Oui, appartenir à Christ.
Christ au temps.
Chrétien vainqueur.
Christ au temps, Jirula.
Non, la Bible, oui, la Bible parle de vaincre. Mais la Bible ne parle jamais de chrétien vainqueur. En tant que titre. Dès que vous dites, nous sommes les vainqueurs, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ne sont pas. Dès que vous dites, nous sommes les choisis. N'est-ce pas? Ça veut dire que il y en a d'autres qui ne sont pas choisis. Forcément, n'est-ce pas? Ah, vous allez donc vous direz non, tout le monde est choisi. Enfin, tous ceux qui croient en Jésus sont choisis. Oui, mais vos actions, votre vie ne le contredit. Pourquoi vous appelez-vous choisi? Oui, nous sommes choisis. Mais ce n'est pas pour nous séparer des autres. Dès que nous appelons quelque chose autre que
Christ,
autre que la Bible, nous allons au-delà du modèle. Nous sommes frères, nous sommes chrétiens. Ah, mais nous sommes choisis. Oui, nous sommes choisis. Mais je suis frère, je suis choisi. Tu es frère, tu es choisi. On n'a pas besoin de nous dénominer. La Bible ne dénonyme jamais. La Bible nous donne le modèle. Et donc, ce n'est pas pour, encore une fois, critiquer. Parce que tous les chrétiens, nous sommes tous un. Sont tous nos frères et nos sœurs. Parce qu'on va vous demander, et on vous a déjà demandé.
C'est...
Pourquoi vous réunissez-vous comme ça, comme ça? Venez nous joindre. Pourquoi est-ce que vous... Il y a une réunion là-bas. On les entend. Il y a aussi une autre là où on a n'est-ce pas, garer la voiture au début. Voilà, ce sont nos frères et nos sœurs. Mais on va vous demander, pourquoi est-ce que vous avez votre rassemblement, n'est-ce pas? Est-ce que... Et peut-être que même vous demandez. La même chose. Non, on va vous demander, et on vous a demandé, je sais. Comment est-ce que vous allez répondre? Est-ce que ici... Voilà une réunion. Voilà une deuxième réunion. Voilà une troisième réunion. Laquelle est la réunion selon le modèle, c'est ça? Oui. Laquelle est selon le modèle? Et donc, c'est pas pour dire que nous avons raison. Et que les autres ont tort. Mais pour voir quelque chose selon la volonté du Seigneur et de nous y donner.
Amen.
Donc, est-ce que ce sont tous nos frères et nos sœurs? Oui. Mais le Seigneur nous demande le Seigneur nous a fait un. L'unité du corps. Nous sommes un avec tous nos frères et nos sœurs. Partout. Ça c'est l'unité, n'est-ce pas? Du corps de Christ. Partout dans le monde, partout, n'est-ce pas, même à travers le temps, tous les chrétiens font partie du même corps. Mais le corps de Christ est aussi visible. Elle est manifestée sur la terre, dans des villes, dans des régions.
Vous
voyez, Dieu est pratique. Et donc, où est le témoignage de Dieu? Où est le témoignage de l'unité? Donc, nous devons voir quelque chose. Que nous sommes un avec tous les chrétiens. Mais notre lieu, notre terrain, doit être un terrain de l'unité. Notre base est Christ. Notre fondement est Christ. Et nous ne bâtissons, nous ne construisons sur aucun autre fondement que Christ.
Christ
et Christ est un.
Christ
et donc la construction, l'édification doit être selon le fondement, sur le fondement. Pour témoigner de l'unité de Christ. Et donc, nous nous rassemblons en tant que l'Église qui comporte, qui constitue tous les croyants qui se rassemblent avec nous ou pas.
Et
parce que, effectivement, l'Église à Neblé-Copé, c'est tous les croyants. Mais le problème, c'est que pratiquement, il y a beaucoup de séparation. On y peut rire. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une chose. On peut obéir à Dieu. pour suivre la parole de Dieu, le modèle, juste pour venir ensemble sur en tant que un, et nous espérons, nous accueillons tous nos frères et nos sœurs de louer le Seigneur ensemble sans aucun séparation, aucune dénomination. Nous sommes seulement l'Église. Nous sommes seulement des frères et des sœurs. Frères, n'est-ce pas, tel ou tel. Frères d'outils, n'est-ce pas?
Frères d'outils.
Oui.
Novi d'outils.
Oui. Frère Antipas.
Frère Novi Antipas.
Non, je ne suis... rien, je ne suis pas plus. Je ne suis pas moi. N'est-ce pas? Je ne suis pas frère. Frère tel ou tel Antipas. Non. Non. Frère, nous sommes seulement des frères. Et nous pratiquons, nous essayons de garder l'unité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'inscription? Vous n'avez pas de pancarte. On vous demande, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas une vraie église. Oui, nous sommes quoi alors? Oui. Mais même, n'est-ce pas, ici c'est un lieu de réunion. Ici ce n'est pas l'église. Nous sommes l'église.
Amen.
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 N'est-ce pas? Donc même si vous avez une pancarte, ce que vous pouvez avoir, vous pouvez indiquer lieu de réunion. Un lieu de réunion. Comme à Lomé, n'est-ce pas? Oui, si vous, bon, vous avez visité Lomé, vous voyez la pancarte. Un lieu de réunion. Ça veut dire quoi? Si vous dites un lieu de réunion, ça veut dire que il peut y avoir d'autres lieux de réunion dans la ville de Lomé. Parce que la ville de Lomé est grande. Et donc, il peut y avoir des salles de réunion différentes. Mais un terrain de l'unité. Amen.
Amen.
Donc, le lieu de réunion n'est pas l'église. L'église est un. Parce que l'église, c'est tous les croyants, les hommes et les femmes, les gens de Jésus-Christ, ceux qui ont été appelés. Mais le lieu de réunion, c'est différent. Donc voilà, vous pouvez répondre à ces gens-là. N'est-ce pas? Et leur expliquer. Qu'est-ce que c'est que l'église? Ils sont l'église, ils font partie de l'église. C'est pas le lieu de réunion là, ici, à l'église telle ou telle. Non, ça ce n'est pas selon le modèle. Ok, je vais encore plus loin. Ok, peut-être. Permettez. Toutes les dénominations que vous voyez. On n'a rien contre les frères et les sœurs. On les aime. Parce qu'ils sont nos frères et nos sœurs. Qui aiment le Seigneur. Mais le système N'est-ce pas? De prendre un autre nom, autre que Christ. Dans la Bible. Est-ce que quelqu'un peut trouver une église qui est appelée autre? L'église telle ou telle. Je ne vois pas. Et si on peut prouver selon la Bible, je suis prêt à accepter. Parce que tout doit provenir de la Bible. Ça, c'est notre standard final, définitif. N'est-ce pas? Nous n'avons aucun autre standard. C'est pas comme on a fait dans le passé. C'est pas selon l'enseignement d'un tel prophète que Dieu a vraiment utilisé. Non. C'est selon la Bible. Ça, c'est notre seule, n'est-ce pas, notre seule base. Tout doit être comparé avec la Bible. Et dès que nous éloignons de la Bible, nous faisons comme les enfants d'Israël. Nous adorons Dieu, mais aussi d'autres dieux. Voyez, nous avons lu les versets dans Deux Rois. Chapitre 17. Verset 33. Verset 32. Il craignait aussi l'Éternel. Et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux. Pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel. Et ils servaient en même temps leur Dieu, selon ou d'après la coutume des nations, d'où on les avait transportés. Vous voyez, ils craignaient l'Éternel. Oui, tout le monde. Loue le Seigneur. Nous aimons le Seigneur Jésus. On ne nie pas le Seigneur. On est chrétien, mais en même temps, ils servent leur propre Dieu. Ça veut dire les dieux, n'est-ce pas, qu'ils ont créés pour suivre l'Éternel. Et même ces dieux-là, ils peuvent m'aider à servir l'Éternel. Vous voyez la complexité de l'homme. L'impureté. Non, Dieu est pur. Il veut que nous le suivions purement. Dieu n'a pas besoin d'aide des autres dieux pour le servir. Non. Donc, pourquoi est-ce que nous servons en même temps d'autres dieux pour suivre l'Éternel? Et justement, ce qui est arrivé, c'est que par une bonne intention, l'homme veut adorer Dieu et il va créer un autel, un édifice. Voilà, ça c'est l'église. Et puis une autre personne, 200 mètres de loin. Il va créer quelque chose.
Il...
Ah voilà, ça c'est l'église. L'église telle ou telle. L'église Antipas. Non, parce que j'utilise pas, parce que je ne veux pas. N'est-ce pas? Parce que c'est moi qui l'ai fondé. C'est moi qui ai prêché l'évangile. C'est moi qui ai, n'est-ce pas, qui ai suscité l'église. Donc, pourquoi pas? C'est l'église d'Antipas.
Antipas,
oui, mais c'est pareil.
Non, il n'y a pas de...
Ça, c'est... Est-ce que je crains l'éternel? Bon, on ne peut pas dire que je ne crains pas l'éternel. J'ai évangélisé. J'ai amené des gens, n'est-ce pas, au salut.
Bon,
mais est-ce que je sers en même temps d'autres dieux? Antipas.
Antipas
est devenu un dieu. En même temps que le vrai dieu. Et voilà ce frère Antipas qui est en train de servir l'éternel, le vrai dieu, et lui-même.
Vous
voyez, j'ai ajouté quelque chose à Dieu. Et ça, c'est devenu un autre Dieu. Vous voyez la subtilité de notre âme, notre vie d'âme. Le mélange dans notre adoration. Donc Dieu nous appelle. Amen. À sortir. N'est-ce pas? À nous purifier. Donc, dans 2 Timothée, chapitre 2, nous n'avons pas lu les versets. Bon. On va les lire. Ok. Bon. 2 Timothée. Chapitre 2. Verset 19. Oui, 2, verset 19. Oui.
Réellement, je serai fondement posé.
Solide.
Amen.
Solide fondement posé par Dieu. Que, avec ses paroles qui nous servent de scope, le Seigneur connaît ce qui lui appartient.
Amen. Amen. Merci.
Amen.
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 Gakela, maupe gome dodo anyi sese la liake.
Amen.
Eye nutrenu. Amen. Eye nutrenu sialine. Afotola nya amasi onye etowo.
Amen.
Eye amasiame siwa afotofo nkola.
Amen.
Ma nateda le majomajo nyenye gbo. Amen.
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 Amen. Donc, le Seigneur, donc ce verset dit que il y a deux côtés. Comme un seau, n'est-ce pas? Un seau ou une pièce d'argent. À deux côtés. De face. Et sur une face, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire que nous ne pouvons pas juger. Donc, on ne juge personne. Tout le monde a le droit. Même Dieu, dans sa grandeur, il donne le droit à tout le monde d'adorer, n'est-ce pas, à son gré.
Parce
qu'on le fait. Dieu le permet. On peut dire que Dieu le permet. N'est-ce pas? L'homme est libre de suivre son chemin. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc parmi, n'est-ce pas, nos frères, il y a tant de frères qui appartiennent au Seigneur. Nous ne les connaissons pas, mais le Seigneur les connaît. Mais d'autre part, l'autre face, ceux qui invoquent le nom du Seigneur, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Donc, de notre part, nous avons une responsabilité de nous éloigner de l'iniquité. Ça veut dire de ce qui ne plaît pas au Seigneur. De ce qui n'est pas selon le modèle. Si nous prononçons le nom du Seigneur, nous avons une responsabilité d'accepter ce qui implique le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur n'est pas seulement un nom qu'on invoque. Oh Seigneur Jésus, et comme ça on est sauvé. Non, le nom du Seigneur représente sa personne, sa volonté. Nous appartenons à une personne. Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Les autres sont libres.
Vous
voyez, nous ne parlons pas des autres. Tout le monde est libre, les autres sont libres. Mais moi, je ne suis pas libre. Et vous n'êtes pas libre. Si vous avez écouté la parole, si vous avez lu un peu le modèle, vous n'êtes plus libre. N'est-ce pas? Vous avez perdu votre liberté. Ça veut dire qu'il vaut mieux ne pas voir. Comme ça, vous êtes libre. Celui qui n'a pas vu, n'est-ce pas, il n'est pas coupable. On est responsable de ce qu'on a vu. Donc, il vaut mieux ne pas voir. Mais si vous avez vu quelque chose dans la parole, de la volonté, du modèle de Dieu, et vous reconnaissez ce modèle, il est là. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous avez une responsabilité de vous éloigner de ce qui n'est pas selon le modèle. On ne peut pas nous forcer, vous forcer, non. C'est une question de vision. C'est une question de fidélité à la vision. Qu'est-ce que vous avez vu? Et comment est-ce que vous vivez votre vie selon ce que vous avez vu? Vous voulez le Seigneur? Vous invoquez, vous prononcez le nom du Seigneur? Vous voulez le Seigneur? Vous voulez vraiment le Seigneur? Donc, il faut faire ce que le Seigneur veut. Il faut suivre le Seigneur. selon son modèle. Il faut suivre le Seigneur jusqu'au bout. Autrement, nous suivons le Seigneur et nous suivons d'autres dieux. C'est comme ça. Je m'excuse, ça c'est trop, n'est-ce pas, c'est trop franc. Mais avons-nous une vision de Christ et de l'Église, de Christ et de son dessein? Qu'est-ce que Christ veut? Comment est-ce que nous allons répondre? Est-ce que nous serons fermes à marcher selon la vision que nous avons eue? Quoi que disent les autres? Les autres diront beaucoup de choses. Venez, on va être ensemble. Pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés ici? Ben, nous, on est plus nombreux là-bas. Et on est plus vibrants. Avec des instruments. Et on danse, et on fait. On est plus nombreux. On est plus impressionnant. Voilà, n'est-ce pas? Venez nous joindre. Quelle est notre réponse? N'est-ce pas? Est-ce que nous commençons à douter? À questionner ce que nous avons vu? Ça, c'est l'épreuve. L'épreuve viendra. La vision est toujours éprouvée. Autrement, elle n'est pas réelle. Beaucoup sont les gens qui disent: « Ah, j'ai vu une vision de Christ. » Et le lendemain, ils perdent leur travail. Ou ils perdent leur argent. Et Christ est parti. Ici. Qui est ce Christ? On m'a volé mon argent. Christ. Il aurait dû me protéger. Où était sa protection? Je vais continuer à me fier à cette personne. Ah, je m'en vais. J'ai plus besoin de lui. Ah, tu as eu une vision de Christ? Maintenant, c'est l'épreuve. C'est le test. Dieu va vous éprouver. Alors, vous avez vu une vision? Ah, la tribulation va venir.
Oui.
Et elle est déjà venue. N'est-ce pas? Et vous l'avez expérimenté un peu. Elle va venir encore. Parce que ça, c'est la vie chrétienne. La révélation,
hein,
la vision a besoin d'être vécue. C'est pas seulement une question de voir quelque chose et de dire quelque chose. Mais Dieu veut une vie. Et nous allons en parler plus pendant le deuxième message.
Amen.
Très pratiquement. Concernant notre manière de vivre. Dieu va nous éprouver. Alors, quand vous dites: j'ai vu une vision
de
Christ et de l'Église. Comme Pierre. Il a dit: tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur était tellement content. N'est-ce pas? Et puis, L'épreuve est venue. Seigneur a commencé à parler de sa mort. Et Pierre, il voulait pas aller à la mort. Il voulait pas que le Seigneur aille à la mort, mais il voulait lui-même, il voulait pas aller à la mort. Parce qu'il voulait se sauver. Oh, Seigneur, ceci ne t'arrivera jamais. Mais je pense qu'il sous-entendait par ça. Ceci ne va pas m'arriver. N'est-ce pas? Pierre a été éprouvé. Et le Seigneur lui a dit, derrière moi, Satan. Car tu ne connais pas, n'est-ce pas, les choses qui appartiennent à Dieu. Tu penses selon l'homme, c'est ça. Tu penses selon l'homme. Oui. Donc, Pierre avait besoin d'être éprouvé. D'être purifié. De vivre la vision qu'il a eue. Et puis plus tard, n'est-ce pas? Il a dit au Seigneur et aux autres disciples. Seigneur, si tout le monde te renie, moi, je ne te renierai jamais. Et le Seigneur lui a dit, ah bon, c'est vrai? On va voir. Tu me renieras. Avant que le coq chante. N'est-ce pas? Et Pierre a dit, non, non, même si je dois mourir, je vais mourir. Maintenant, il était prêt à mourir. Mais est-ce qu'il est mort?
De quoi?
Non, il a fui. Avec tous les autres disciples.
Nous serons là,
sauf Jean. Il restait à la croix. Avec des sœurs. Pierre, il était parti. Ah oui, le premier, n'est-ce pas? Et puis, le jour de la résurrection, n'est-ce pas? C'est Marie, c'est une sœur qui est venue au sépulcre pour chercher le Seigneur. Parce qu'elle voulait le Seigneur. Et elle n'a pas trouvé. Alors elle pleurait. Où est mon Seigneur? Voyez. Et puis finalement le Seigneur, elle a forcé le Seigneur à apparaître. Pour se révéler. Et puis, elle a couru auprès de Pierre et de Jean pour leur dire, le Seigneur est ressuscité, viens, venez, venez, venez. Et puis, ils ont couru. Jean a gagné la course. Mais Pierre est entré dans le sépulcre, n'est-ce pas? Et ils ont tous les deux vu, ah, c'est vide. Jésus est tout là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer à la maison. Il n'y a plus rien à faire.
Vous
voyez, l'épreuve. Ils sont rentrés. Mais Marie est restée. En train de pleurer. Jusqu'à ce que le Seigneur soit venu.
Amen.
Amen. Donc, l'épreuve viendra. Nous allons fuir. Nous allons nous sauver. Mais nous avons besoin de revenir. Revenir. Toujours revenir à la vision. Amen.
Amen.
Nous purifier. Dire, Seigneur, me voilà.
Amen.
Rends-moi fidèle à ce que j'ai vu. Je veux vivre ce que j'ai vu.
Amen.
Quoi qu'il arrive, les tribulations, les épreuves, les oppositions, les questions, la persécution, Seigneur, je suis prêt.
Amen.
Ah, mais Seigneur, aide-moi. Œuvre-moi pour traiter ma vie d'âme. Pour traiter ce qui est contre toi. Que quand les persécutions viennent, Seigneur, donne-moi ta grâce
de
pouvoir te suivre. Amen. Jusqu'au bout. Amen.
Amen.
Amen.